VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du vendredi 31 août 2018. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Les représentants de 14 groupes armés centrafricains ont signé un document unique des revendications dans le cadre des négociations de paix. Le président sénégalais Macky Sall révoque le maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné à 5 ans de prison. Le président gabonais Ali Bongo demande aux policiers d'arrêter de faire du racket sur les populations. En Afrique du Sud, de nouvelles séries de violences contre des immigrés africains. Ici, aux États-Unis, Washington rend un dernier hommage au sénateur John McCain, alors qu'à Detroit, la reine de la soul, Aretha Franklin, rejoint sa dernière demeure. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous en République démocratique du Congo. Des mouvements citoyens et des organisations de la société civile lancent une campagne pour obtenir le départ au pouvoir de Joseph Kabila avant les élections, ainsi que la démission du président de la CENI, Corneille Nangaa. Les détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous dénonçons la partialité de Corneille Nangaa qui veut imposer la machine à voter. Il se comporte comme un instrument de Joseph Kabila, comme un membre d'un camp politique, a dit Hervé Diakiesse, le principal orateur de la rencontre. Devant environ 200 personnes, les organisateurs se sont félicités de la non-candidature de Joseph Kabila pour un troisième mandat consécutif. « Nous avons réussi à faire reculer ce régime qui voulait coûte que coûte imposer un troisième mandat de Kabila. C'est grâce à nos actions que cela ne s'est pas fait », a souligné Hervé Diakiesse. Ces organisations accusent le président Kabila de prendre en otage le processus électoral et d'influencer les décisions de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle a entamé ce même vendredi à Kinshasa le traitement des recours introduits notamment par 6 candidats à la présidentielle qui ont été recalés par la Commission électorale nationale indépendante, parmi eux l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Centrafrique, les émissaires de 14 groupes armés et de l'Union africaine ont achevé hier soir une réunion positive à Bouar, dans l'ouest du pays. Le point avec Morgane Guiriec.
Cette réunion, qualifiée de positive par le porte-parole du panel de l'Union africaine en Centrafrique, s'est achevée avec la signature par les représentants des 14 groupes armés d'un document unique contenant 104 revendications. Ce document a été remis au gouvernement comme base de négociation. 5 points ont cependant été mis en réserve par la médiation africaine, dont l'amnistie générale réclamée par les groupes armés. Une revendication rejetée par Bangui, les Nations Unies et bon nombre d'ONG. Une cour pénale spéciale a été créé pour juger les crimes commis dans le pays depuis 2003 et plusieurs chefs de groupes armés sont cités dans des rapports d'enquête de l'ONU. Une médiation parallèle a été initiée par la Russie et son allié soudanais mardi à Khartoum avec la signature d'une déclaration d'entente entre 4 groupes armés. Depuis le début de la crise en Centrafrique, 7 accords de paix ont été signés sans jamais ramener une paix durable dans ce pays.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a répondu hier en direct à la télévision aux questions des spectateurs. Au cours de ces questions-réponses, il a notamment demandé aux forces de l'ordre de stopper le racket des populations. Il a aussi affirmé vouloir réformer le code électoral. Clairement Ngibour.
C'est la première fois que le président Ali Bongo s'est prêté à cet exercice. Dans l'émission « Face à la nation », il a répondu à des questions préenregistrées via Facebook ou WhatsApp. « Il est mieux d'écouter mon peuple », a-t-il dit en préambule. Si certaines questions ont paru embarrasser le chef de l'État, comme celle sur la réduction du nombre de ministres pour résoudre la crise, sur d'autres, Ali Bongo s'est montré très ferme. La police doit arrêter de racketter les citoyens et le plus rapidement possible, et leur donne quelques mois pour le faire. Ali Bongo a par ailleurs dit vouloir accélérer la réforme du code pénal. Selon lui, les jeunes qui ont commis des petits délits ne doivent pas rester en prison 5 ou 6 ans, enfermés aux côtés de grands criminels. À une question sur une grâce présidentielle de prisonniers politiques, Ali Bongo a répondu qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon, mais seulement des personnes emprisonnées pour des actes de violence.
Plusieurs milliers de personnes ont assisté ce vendredi aux funérailles de 7 soldats burkinabés tués le 28 août dans l'explosion d'un engin artisanal à l'est du pays. Ils ont été décorés à titre posthume de la médaille d'honneur militaire avant d'être inhumés. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été révoqué par décret présidentiel. Selon le ministère sénégalais de l'administration territoriale, la condamnation du maire de la ville de Dakar par la cour d'appel le prive de la capacité juridique et de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Hier, la cour d'appel de Dakar a confirmé la condamnation à 5 ans de prison de Khalifa Sall pour escroquerie et usage de faux. Il a toujours la possibilité de saisir la Cour suprême. En Mauritanie, les militaires ont voté aujourd'hui de manière anticipée pour les élections législatives, régionales et locales demain. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les militaires ont voté dans 80 bureaux de vote, dont une trentaine à Nouakchott. Le nombre de militaires inscrits sur les listes électorales n'a pas été précisé. Leurs suffrages vont être scellés et comptés en même temps que ceux des civils, d'après la commission électorale. La campagne s'est achevée hier par un échange houleux entre la majorité et l'opposition. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a affirmé que le pays est en danger à cause d'une opposition divisée, selon lui, entre islamistes extrémistes et racistes. Il a ajouté qu'ils n'attendent que leur échec pour prendre les armes. C'est M. Aziz qui a pris les armes contre un régime élu et assassiné la démocratie en prenant possession du pouvoir, a répliqué Djemil Ould Mansour, un des responsables du parti islamiste Tewassoul. Ces élections constituent un test pour le régime du président Aziz avant la présidentielle de mi-2019. Un nombre record de 98 partis politiques participent au scrutin. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine.
Les Nations Unies mettent en garde contre les risques de pénurie de nourriture qui menacent plus d'un million de Zimbabwéens pauvres à cause de la chute de la production agricole. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 61 millions d'euros seront nécessaires pour financer l'aide d'urgence donc dans ce pays. La justice sud-africaine demande au gouvernement de faire adopter une loi reconnaissant légalement les mariages religieux musulmans. Le système juridique en vigueur en Afrique du Sud ne reconnaît pas les mariages musulmans, ce qui limite les droits des femmes musulmanes en cas de divorce notamment. Et le premier ministre tunisien Youssef Chahed a limogé le ministre de l'Énergie et des Mines, Khaled Kaddour, est poursuivi depuis 2017 pour corruption. Il avait comparu en novembre 2017 devant un juge du pôle financier pour corruption administrative et financière, mais était resté à son poste et son procès est toujours en cours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, la classe politique rend un dernier hommage à l'ex-sénateur John McCain qui sera enterré ce week-end à Annapolis. Le point avec Raissa Gironda.
John McCain a dominé notre époque, non seulement par ce qu'il a accompli, mais par ce qu'il était et ce pourquoi il s'est battu toute sa vie, a déclaré Paul Ryan, leader républicain de la Chambre. Il a ajouté qu'il restera toujours sur la liste des serviteurs les plus courageux et fidèles de la liberté. Il souligne que l'honneur qui lui est rendu sous la coupole du Capitole est rare, réservé aux grands personnages de l'histoire des États-Unis, comme John Fitzgerald Kennedy ou Rosa Parks. Demain, l'ex-président républicain George Bush et l'ex-président démocrate Barack Obama doivent prononcer un discours lors de ses obsèques en la cathédrale de Washington. Il y aura une absence remarquée du président Donald Trump à cette cérémonie. John McCain sera enterré dimanche à Annapolis dans l'intimité familiale.
Des milliers de fans et d'artistes se sont donné rendez-vous ce vendredi à Detroit, qui fait ses adieux à la légende la légendaire chanteuse Aretha Franklin. Des personnalités politiques et de la musique ont assisté aux funérailles de la reine de la soul, mort à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. L'ancien président Bill Clinton et le chanteur Smokey Robinson, entre autres, s'expriment à cette cérémonie qui se poursuit. Nous y reviendrons en partie magazine.
Les États-Unis accusent le Canada de n'avoir fait aucune concession dans le secteur agricole dans le cadre des négociations pour moderniser l'accord de libre-échange nord-américain. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le représentant américain au commerce dans un court communiqué, ajoutant que les négociations entre les États-Unis et le Canada se poursuivent. L'administration Trump souhaite qu'Ottawa abandonne notamment tout ou partie de son système de protection des producteurs de lait. Les négociateurs en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, demandent à son homologue britannique de lui détailler rapidement la proposition de Londres sur la question de la frontière irlandaise, l'un des points d'achoppement des négociations sur le Brexit. Aux Pays-Bas, deux personnes ont été blessées ce vendredi lors d'une attaque au couteau à la gare centrale d'Amsterdam. L'assaillant a été blessé par balle, selon la police. Et puis le chef de l'État sud-coréen, Moon Jae-in, enverra la semaine prochaine à Pyongyang un émissaire spécial pour discuter d'un projet de sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cet émissaire discutera aussi du désarmement nucléaire avec les autorités nord-coréennes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à l'actualité économique dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Menelakiza.
Le Royaume-Uni a annoncé un programme de 70 millions de livres sterling pour créer 100 000 emplois au Nigeria. La ministre d'État pour l'Afrique, Harriette Baldwin, a déclaré que ce programme permettra d'augmenter les revenus de 3 millions de personnes originaires des régions les plus pauvres du Nigeria. Propos tenus à l'occasion d'une rencontre commerciale dans le cadre de la visite du Premier ministre britannique Theresa May au Nigeria ce mercredi. Au cours de l'exercice 2017-2018, l'Éthiopie a attiré plus de 3,7 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. La Commission des investissements a toutefois précisé que le pays visait plutôt à attirer 4,6 milliards de dollars. Le manque de devises et les troubles observés dans certaines parties du pays ont contribué de manière négative à la réduction des entrées. Addis Abeba a, pendant la même période, délivré des licences d'investissement à 275 projets étrangers avec un capital combiné de plus de 5 milliards de dollars. Ces projets ont permis la création de 133 000 emplois dans les parcs industriels nouvellement construits et dans d'autres entreprises. L'Égypte et la Chine ont enregistré 7,5 milliards de dollars d'échanges commerciaux au cours des 7 premiers mois de 2018. Le volume correspond à une hausse de 24% des échanges commerciaux atteints en 2017.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Première sélection pour Madi Camara avec la Guinée.
Paul Put a enfin dévoilé sa liste de joueurs pour affronter la Centrafrique en éliminatoire de la CAN 2019. On y retrouve justement Mohamed Madi, le milieu de terrain de l'Olympiakos. Le reste, c'est du classique avec le retour en sélection de Mohamed Yatara, le milieu de terrain de Mönchengladbach. Ibrahim Traoré est forfait pour cause des blessures. Plusieurs binationaux pourraient faire leur début à Conakry. Ernest Seka de Nancy, Pakonate de Cincinnati, Ibrahim Sissé de Fulham, Ibrahima Kone de Pau et Ali Keita d'Östersund. La Guinée a bien démarré ses éliminatoires après son succès 3-2 à Boaké devant la Côte d'Ivoire.
Le mercato estival se referme ce soir.
Ça bouge pour les Africains. L'international sénégalais Mbaye Niang a rejoint Rennes sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Torino. Aurélien Chedjou ne jouera pas cette saison à Basaksehir. Le Camerounais rejoint Bourrasport pour un prêt d'une saison. Libre de tout contrat depuis juin dernier, l'international congolais Youssouf Moulumbu quitte West Brom Albion pour le Celtic Glasgow pour 2 ans. Le Malien Charles Traoré s'est engagé avec le FC Nantes en provenance des Troy. Et le Gambien Souleymane Marais passe de Whitford à Eupen pour un prêt d'une saison.
Thierry Henry, promu premier adjoint du sélectionneur Martinez.
Le champion du monde français, dont Bordeaux voulait faire son coach, a finalement décidé de remplir avec l'équipe nationale de Belgique en tant que premier adjoint du sélectionneur Roberto Martinez. Thierry Henry, 41 ans, succède à ce poste Graham Jones, parti rejoindre le club de West Bromwich Albion en deuxième division anglaise.
Les athlètes africains ont brillé à la Diamond League 2018 à Zurich.
La Sud-Africaine Caster Semenya a remporté le 800 mètres féminin. C'est sa 28e victoire consécutive sur la distance. Déception par contre pour Marie-Josée Talou. La championne ivoirienne est arrivée 3e en finale du 100 mètres derrière l'anglaise Dina Hache-Smith et sa compatriote Muriel Aouré qui a décroché la médaille d'or. Le Kenyan Timothy Cheruiyot a enlevé le 1500 mètres masculin. Sa compatriote Hélène Obiri a triomphé sur le 5000 mètres féminin. Très régulier sur la saison, le Sud-Africain Louvo Manyonga a dominé le saut en longueur avec un bond à 8,36 m.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et on passe au dossier du jour. Dernière ligne droite pour l'inscription sur les listes électorales au Nigeria pour participer aux élections générales de février prochain. La clôture des inscriptions est fixée à ce vendredi 31 août. Le correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert Tamba, s'est rendu à un bureau d'inscription à Abuja et voici son reportage.
Ils sont plusieurs dizaines qui font la queue devant un bureau de vote de la banlieue d'Abuja pour se faire inscrire sur la liste électorale en vue de la présidentielle de février 2019 au Nigeria. C'est vendredi 31 août et le dernier jour pour s'inscrire. Mirani Augustine est parmi les nombreux Nigériens qui ne sont pas encore inscrits.
Je pense qu'il y a un problème de logistique parce que parfois vous venez et vous pouvez passer toute la journée sans pouvoir vous inscrire et c'est décourageant. Nous n'avons pas beaucoup de temps libre à cause du travail, donc nous ne pouvons trouver du temps que pendant les week-ends.
La Commission électorale nationale indépendante avait déjà accordé 2 semaines de plus aux électeurs pour se faire inscrire. Benjamin Bié dénonce la lenteur dans le processus mis en place par la CENI.
Je ne suis pas encore inscrit. Les gens sont très nombreux. Le processus est très compliqué, comme vous le voyez. Chaque fois, nous venons ici et ils nous disent autre chose. Parfois, ils nous demandent d'écrire nos noms, nos numéros ou encore de revenir dans l'après-midi. Et nous ne pouvons pas à ces périodes. Nous avons d'énormes difficultés à nous inscrire et ce sont de vrais défis.
Dans certains États comme Zamfara et Edo, respectivement dans le nord-est et le sud-ouest, les autorités fédérales ont décrété ce vendredi comme une journée chômée et payée pour donner la possibilité aux travailleurs de la fonction publique de régulariser leur situation et obtenir leur carte d'électeur. Certains sont inscrits mais n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur. Depuis une semaine, Alice Ochani vient pour retirer sa carte, mais toujours sans succès.
Je ne pouvais même pas me rendre à l'église dimanche dernier. Je cherche à retirer ma carte d'électeur. Et toute la semaine, je viens ici tous les jours. Il y a encore même beaucoup qui n'ont pas retiré leur carte. Je me demande s'il est possible qu'on nous accorde plus de temps, peut-être d'ici fin septembre ou octobre. Cela permettra à tout le monde d'obtenir sa carte.
Selon la Commission électorale nationale indépendante, plus de 80 millions d'électeurs ont pu s'inscrire. Les élections générales et présidentielles sont prévues en février 2019. Ce seront les 6e scrutins depuis la fin du régime militaire en 1999. Le président sortant Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, fera face à certains poids lourds de l'opposition, comme l'ancien vice-président Atiku Abubakar ou encore l'actuel président du Sénat Bukola Saraki, tous d'anciens alliés de Buhari qui veulent tous s'est jeté dans la course à la présidence. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des maladies infantiles les plus mortelles en Afrique.
Selon l'OMS, en Afrique subsaharienne, un enfant sur 13 meurt avant l'âge de 5 ans des causes liées à la pneumonie, à la diarrhée, au paludisme et à la malnutrition. Dans ce contexte, le VIH-Sida est un facteur aggravant.
Pour en parler, nous recevons le docteur Jean-Fidèle Ilunga, coordonnateur de la stratégie de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant en RDC.
Nous écouterons aussi le professeur Madeleine Folquet, chef du service de pédiatrie au Centre Hospitalier Universitaire de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Selon International Crisis Group, la crise politique et sécuritaire que traverse le Burundi depuis 3 ans affecte l'économie de ce pays. Les conditions de vie des Burundais et l'accès aux services se dégradent. L'Union européenne, qui a suspendu l'aide directe au gouvernement burundais, doit augmenter son soutien à la population. Le Burundi est à la recherche d'autres bailleurs de fonds pour remonter la pente. Raissa Girondin a joint Thierry Virculon, il est consultant à l'International Crisis Group.
C'est à la fois la suspension de l'aide des bailleurs européens et la perte de capacité de gestion sur les finances publiques. Plus aussi, il faut ajouter la récession économique, parce que mais qui a surtout concerné l'année 2015 et 2016, qui ont été des années où il y a eu des violences au Burundi. C'était les années aussi où une bonne partie de la population a quitté le pays. Par conséquent, ça a créé évidemment une crise économique à l'intérieur du Burundi, avec un affaissement de la demande, un des facteurs importants.
Alors, le premier facteur, on va revenir dessus, la suspension de l'aide de l'Union européenne. Que pourrait faire maintenant l'Union européenne pour aider les Burundais?
C'est continuer sur la ligne qu'elle a prise au début 2016, qui a été arrêter toute coopération institutionnelle avec les autorités burundaises et de diriger son aide par le biais des ONG, et surtout de cibler cette assistance directement au Burundi. Le problème, c'est que le gouvernement essaye d'entraver cela, c'est en exerçant des pressions parfois extrêmement fortes sur les ONG burundaises. Ce que l'Union européenne devrait faire aussi, c'est de convaincre les autres bailleurs, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, de suivre la même stratégie, c'est-à-dire d'arrêter toute aide institutionnelle avec le gouvernement burundais et de rediriger leur aide aussi directement vers la population burundaise.
Pour compenser ce manque d'aide, on voit que le Burundi se tourne vers d'autres pays, comme la Chine. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette recherche de bailleurs de substitution?
C'est un classique en ce qui concerne les régimes africains qui ont été soumis à des sanctions par l'Union européenne. On a vu ça avec le Zimbabwe aussi de Mugabe au début du siècle, qui avait fait la même chose et s'était tourné vers la Chine. Il y a une leçon à tirer de l'aventure zimbabwéenne pour le Burundi, c'est que 15 ans plus tard, les autorités zimbabwéennes reconnaissent que l'aide chinoise ne suffit pas à compenser l'aide occidentale. C'est la raison pour laquelle le Emmerson Mnangagwa s'est maintenant tourné de nouveau vers les occidentaux et demande à ce qu'ils investissent de nouveau dans son pays. C'est évident aussi, c'est que le Burundi est un pays qui a très peu de ressources à offrir à d'autres partenaires étrangers, et notamment un partenaire comme la Chine qui cherche à être dans une relation de win-win, d'avoir lui aussi des bénéfices de cette relation. Le Zimbabwe avait des ressources minières à offrir à la Chine que le Burundi n'a pas.
C'était Thierry Virculon, consultant à International Crisis Group, joint en France.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Afrique du Sud, au moins 4 personnes sont mortes mercredi dans des violences opposant des immigrés africains à des autochtones à Soweto. Le pays accueille des millions d'étrangers, souvent accusés à cause du chômage de voler le travail de la population locale. En 2015, 7 personnes ont été tuées dans des pillages de commerce tenus par des étrangers à Johannesburg et à Durban. En 2008, ces violences xénophobes avaient fait au moins 62 morts. Idriss Fall a joint sur place Armand Bokoko, un habitant de Johannesburg.
Le mercredi, ce qui s'est passé au niveau de Township, il y a eu déjà des rumeurs à la veille qui se pourrait que ceux qui vendent dans les marchés, dans le magasin, le produit qu'ils utilisaient, c'est un peu périmé. La population se dit, mais si ces gens nous vendent des produits périmés, c'est qu'ils peuvent nous créer des problèmes, nous tuer. De ce fait, il y a eu un mouvement des gens qui sont entrés dans un magasin des étrangers. Et ils ont voulu prendre le produit périmé pour forcer. Et c'est fait qu'il y a un qui a été abattu. Les autres sont dit non, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Il y a une réaction.
Et c'est ça qui explique les 4 morts.
Même au niveau de la police, ils ont fait les enquêtes. Ils ont trouvé qu'il y a eu des gens qui fabriquent des levures qui sont périmées. C'est mélangé avec d'autres produits. On les a mis la main dans le sac. ces étrangers dont on parle, ce sont des Somaliens.
Donc le calme est revenu à Soweto, ce n'est pas les violences contre les immigrés comme on a connu en 2015 ou en 2008.
Non, ce n'est pas les violences contre les immigrés qu'on a connues en 2015 et ça continue. Non, maintenant c'est différent et tout le monde se dit qu'on a vendu des produits périmés. Il semble-t-il que les gens meurent à cause de ces produits périmés. Et ça fait maintenant le ras-le-bol des autochtones. Mais comme il y a toujours cette situation en tête que ce sont les étrangers qui viennent pour prendre leur travail, ceux qui habitent à Soweto, dans les coins reculés, dans les bidonvilles, c'est différent de ceux qui habitent en ville, ou ceux qui habitent dans les quartiers où tout le monde est là. La menace n'est pas comme une bombe à retardement, comme on a connu en 2015, ce n'est pas dans ce sens-là.
Quand même, il y a toujours cette relation d'animosité des Sud-Africains, particulièrement les Noirs, chômeurs, vis-à-vis des immigrés.
Oui, ça a toujours été un des chevals de bataille pour essayer de défendre la raison pourquoi on entrait de casser des magasins. A été maîtrisé par la police. J'ai même écouté hier un des leaders qui parlait de vidéos, de WhatsApp, des médias, que non, les Africains ont le droit de vivre en Afrique du Sud et que c'est l'extérieur qui vient diviser les Sud-Africains et le reste de l'Afrique.
C'était Armand Bokoko, un habitant de Johannesburg.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, la reine de la soul, Aretha Franklin, rejoint aujourd'hui sa dernière demeure. Décédée à 76 ans, le 16 août, des suites d'un cancer du pancréas, Aretha Franklin était l'une des plus grandes voix américaines et une figure emblématique de la communauté noire qui a marqué des générations entières d'artistes. Eric Manirakiza.
La cérémonie a duré plusieurs heures et a été ponctuée d'hommages musicaux de Steve Wonder et Ariana Grande notamment. L'ancien président américain Bill Clinton s'est aussi joint à la famille et aux amis de la défunte. L'évêque Charles Ellis, pasteur au Greater Grace Temple, s'est réjoui de la manière dont Aretha Franklin a béni les Américains avec sa musique gospel. Jeudi, plus de 40 artistes sont montés sur scène pour interpréter les plus grands morceaux de la légendaire chanteuse. Le concert a fait chavirer d'émotion des milliers de fans hier soir à Detroit. The Four Tops, Didi Bridgewater ou encore Angie Stone ont fait vibrer les fans au son de Freeway of Love, un hymne à Detroit et des incontournables Say a Little Prayer et Respect en guise de bouquet final interprété par l'ensemble des artistes. I
Repose en paix, Aretha Franklin, et c'est sur ces notes qu'on se quitte. Une édition mise en onde par Cheikh Thiero. À la console, Sidrak Franklin, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook, sur notre site voafrique.com. Au revoir.
Bienvenue à